Si ça t'est déjà arrivé de faire semblant de comprendre un mot,
d'avoir un faux appel au milieu d'une discussion parce que tu ne captes pas du tout de quoi il s'agit.
Pour pouvoir comprendre des concepts.
Et se la péter.
Pour pouvoir apprendre des nouveaux mots.
À peu près. Hein.
Y a les savoirs.
Branly.
Branlou.
Branly, branlou.
Branly.
Les savoirs, branly, branlou.
Branly, branlou.
Branly, branlou. Numéro
1.
L'épistémologie. L'épistémologie.
Non, l'épistémologie. Bonjour Myriam.
Bonjour. Salut.
On est là aujourd'hui parce qu'on a eu quelques petits problèmes et quelques débats autour du mot épistémologie. Alors moi, je suis convaincue que c'est un terme médical.
Tout à fait.
L'épistémie de grippe. L'épistémie...
De gastro.
De coronavirus, si je peux
me permettre. De coronavirus, si on va être un peu dans l'actualité.
Alors que moi, je suis persuadée que c'est un lien tout à fait avec la cuisine, c'est-à-dire la science des épices. Donc j'ai essayé d'expliquer ça et on n'était pas d'accord.
Qui a raison?
Qui a tort?
J'ai le regret de vous annoncer que vous avez tort toutes les deux. L'épistémologie, c'est un peu mon dada. Du coup, je m'y connais. Donc si vous voulez, je peux vous partager un peu ce que j'en sais.
Bah ouais.
Ouais. Bah, en fait, l'épistémologie, ça a l'air d'être un grand mot comme ça, on dirait que c'est un truc hyper compliqué, mais en fait, c'est assez simple. En fait, c'est l'étude de la manière dont on fait de la science, dont la manière dont on produit du savoir. C'est-à-dire que c'est ça qui va nous guider pour comprendre comment est-ce qu'on produit des savoirs, pourquoi, avec quelle méthode, dans quel but, etc. Et en fait, il y a plein de visions qui vont s'affronter, du coup. Donc, tout le monde n'est pas d'accord sur c'est quoi comment on arrive à connaître les choses. Et du coup, voilà. Et donc, c'est l'étude de ça.
Ça veut dire qu'on va étudier les chercheurs, par exemple.
Ouais, par exemple. On va étudier les théories. On va étudier... Mais pas les théories en soi, mais plutôt la manière dont les théories, elles sont construites. La manière dont les chercheurs y travaillent. On va étudier la manière dont les disciplines, elles fonctionnent. Chaque discipline a ses méthodes, chaque discipline construit du savoir de manière différente en s'appuyant sur des choses différentes. Et du coup, on va essayer d'aller regarder tout ça.
C'est un peu comme une philosophie de la recherche.
Ouais, ça fait un peu partie de la philosophie des sciences. Mais pas que, donc on va pas que utiliser de la philosophie, donc des manières de penser, tout ça, mais c'est aussi, pour moi en tout cas, c'est aussi une partie des sciences sociales qui va beaucoup traiter de ça.
Alors peut-être, est-ce que tu pourrais bitcher sur une épistémologie que tu trouverais problématique pour qu'on comprenne mieux, non?
Ah, parce que donc il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs, il y a plusieurs du coup, courants épistémologiques. Donc on peut tout à fait bitcher sur l'épistémologie la plus problématique, qu'on va en général appeler le positivisme. Alors ça a l'air d'être un mot aussi chelou comme ça, on n'arrive pas trop à capter ce que ça veut dire.
Bah, une secte, on dirait.
Ouais, au premier abord. Mais en gros, le courant positiviste, bah, c'est un peu l'idée de la science, la manière dont on a construit la science occidentale. Donc c'est vraiment cette idée que... pour produire du savoir, on utilise la méthode scientifique. C'est la seule méthode qui va être valide et légitime. Elle se fait par une pensée rationaliste, c'est-à-dire qu'on observe, on analyse, on déduit. C'est vraiment très très méthodique. Et cette vision de la science, elle va essayer de produire des savoirs qui sont neutres, objectifs, et universel. C'est un peu ça l'idée. Donc on peut déjà imaginer un peu c'est quoi qui est problématique là-dedans. Donc qu'est-ce que ça veut dire neutre, objectif, universel? Et en fait, il y a pas mal de critiques du coup qui ont été apportées à cette vision de la science. On peut commencer... Enfin, il y a des grosses critiques qui ont été apportées dans le milieu féministe, surtout à partir des années 60-70. Et en particulier dans le black feminism, donc à partir de féministes noires. qui ont commencé à critiquer ça parce qu'elles ont dit en fait, ce savoir-là que vous prétendez qu'il est neutre, objectif et universel, en fait, il n'est pas du tout neutre, il n'est pas du tout objectif et il n'est pas du tout universel. Parce qu'en fait, il est produit par, en gros, en général, il est produit par des hommes blancs, hétérosexuels, de pays occidentaux, de classe moyenne, plutôt âgés. Et donc, en fait, c'est une certaine vision du monde qui se prétend universelle, qui prétend légitimer qu'est-ce qui est valide scientifiquement, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais en fait, c'est pas du tout universel et c'est pas du tout objectif. Et du coup, ces personnes-là, elles ont commencé à réfléchir sur les systèmes de domination, sur leur expérience, et elles ont dit, en fait, nous, on est aussi capable de produire un savoir à partir de notre propre expérience, et ce savoir, en fait, il n'est pas du tout le même que celui que vous allez produire depuis une position de dominant. C'est-à-dire qu'en tant que dominé, nous aussi, on va avoir un certain regard sur le monde, un certain regard sur ce qu'on vit, une certaine analyse, et ça aussi, c'est valable, et même, elles vont aller jusqu'à dire, en fait, c'est encore plus, ça nous donne une double conscience, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter quelque chose de nouveau aussi, aux savoirs qui sont produits. Donc ça, c'est une partie des critiques. Après, il y a aussi un peu tous les courants un peu post-coloniaux, décoloniaux aussi, dont on entend un peu pas mal parler en ce moment. Du coup, les gens, ils vont critiquer aussi cette vision positiviste en disant, en fait, là vous êtes en train de prendre le monopole de ce qui est le savoir, c'est-à-dire qu'il n'y a que le savoir occidental qui est considéré comme valable, et en fait ça a complètement effacé toutes les autres formes de savoir qui existent dans le monde, c'est-à-dire que même si on va dans les universités dans d'autres pays du monde, dans des pays du sud et tout ça, en fait le savoir ça va toujours être la méthode scientifique, celle qui va être validée, donc des savoirs avec une vision occidentale des choses. Et du coup, il y a pas mal de gens qui se sont dit, non, en fait, il y a plein d'autres formes de savoir. Il y a plein d'autres systèmes de connaissances qui sont développés dans plein de cultures différentes, donc des systèmes de connaissances non occidentaux, et du coup, qui vont avoir aussi leur manière de fonctionner, qui ne s'appuient pas sur la raison, qui s'appuient sur d'autres manières de voir le monde, d'autres cosmologies, d'autres liens aussi avec la spiritualité, où du coup, par contre, la méthode scientifique, du coup, elle élimine complètement tout ce qui est spirituel ou en tout cas qui n'est pas du rationnel, quoi. Voilà, et donc ces gens-là, ils vont dire, non, en fait, nous, on pense que c'est important aussi que toutes les manières de produire du savoir, elles soient valables et valides, et ce qui est intéressant, c'est de dialoguer, en fait, que toutes ces visions du monde, elles puissent dialoguer et de manière le plus égalitaire possible, sans que certaines soient infériorisées ou soient écartés, etc., comme on va souvent faire avec des formes de culture non occidentale, on va dire mais ça c'est du folklore, ça c'est que des croyances, c'est pas scientifique, c'est basé sur rien, etc., etc., alors que c'est quand même des savoirs qui vont être basés par exemple sur des cultures qui ont été développées pendant des millénaires et qui ont leur système propre, quoi. Voilà.
Alors, t'as dit cosmologie, mais ça sera pour une prochaine émission.
Voilà, j'allais exactement dire ça, mais bon.
Qui est peut-être un cocktail américain.
New Yorkais.
Voilà, imagine.
Ça, le cosmopolitan.
C'est ça.
Non, mais cosmologie, c'est vrai que c'est aussi un mot compliqué, mais ça veut juste dire vision du monde, quoi.
Ah ouais,
un système, une autre vision du monde.
Et du coup, est-ce que on a parlé de d'épistémologie problématique? Je pourrais peut-être balancer quelques noms, mais surtout
c'est ce qui nous intéresse avant tout.
Mais alors du coup, ton épistémologie préférée, est-ce qu'il y a que l'épistémologie problématique? Non. Ou est-ce que tu vois, moi là, je me demandais, est-ce que l'essentialisme c'est une épistémologie ou pas? Quand tu parlais du black féminisme, je me disais, est-ce que c'est l'intersectionnalité, l'épistémologie, ou on pourra faire une émission sur ça, ou un autre, c'est quoi
Moi, je dirais du coup que ce que je qualifierais comme des épistémologies auxquelles je m'inspire ou je me réfère, ça serait, on appelle souvent épistémologie située, pour parler de cette vision des choses-là qui dit qu'en fait tous les savoirs ils sont situés, C'est-à-dire que ça ne peut pas être neutre, ça ne peut pas venir de nulle part, ça ne peut pas être objectif, parce que tous les savoirs, ils sont produits par des personnes, par des corps, et donc des personnes qui ont une place dans la société, qui ont une place dans les rapports de domination, et que du coup, ils sont forcément situés d'un point de vue, et ce point de vue, il sera toujours partiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vision d'ensemble, voilà, c'est une petite partie qu'on peut observer et qu'on peut analyser, et ils sont localisables. Et moi, j'aime bien un peu cette idée-là, parce que dans l'épistémologie dominante, du coup, souvent, les savoirs, bah, ils vont essayer de tendre vers l'universel, comme si on pouvait reproduire les choses partout pareil, et que les lois scientifiques, elles seraient valables partout. Bah, moi, j'aime bien l'idée que ce soit localisable, parce que du coup, on peut se dire que bah, un savoir qui est produit par telle personne ou telle communauté, à tel endroit, à tel moment, eh ben, on peut le situer, et c'est-à-dire qu'on peut aussi mieux le comprendre. Et par exemple, il y a une chercheuse du coup, qui travaille vraiment sur l'épistémologie des sciences. Elle parle de... Elle dit qu'en fait, plus un savoir il est localisable, plus il est objectif. C'est-à-dire qu'on sait où il est produit, comment, pourquoi. Et plus on a de détails sur ça, plus ça devient objectif.
C'est qui dit ça?
C'est Donna Haraway qui dit ça.
Donc, si j'ai bien compris, en fait, il y aurait en gros deux épistémologies, quoi. L'épistémologie située ou l'épistémologie positiviste.
Ouais, après, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y en a que deux, parce que je pense qu'on parle plutôt de... On ne parle pas forcément d'épistémologie en soi, mais plus de courant épistémologique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans le positivisme, il y a 40 000 courants, les gens, ils se critiquent, machin, mais ça reste dans ce cadre de produire du savoir objectif, neutre et tout ça. Et pareil, dans les épistémologies situées, il y a aussi plein de gens qui développent des théories un peu différentes, qui se critiquent et tout. Et après, il y a tout ce qu'il y a au milieu. Moi, j'ai un peu l'impression que de nos jours, on ne va pas rencontrer beaucoup de gens qui vont dire « je suis positiviste », par exemple, c'est plutôt les gens vont être dans la critique. Mais pour moi, souvent, il reste un peu ces espèces de vestiges de vouloir être neutre et objectif, même si les gens vont dire « oui, mais je suis un chercheur impliqué, machin », mais ils vont toujours quand même avoir ce truc de vouloir se distancier de leur objet. Certains mécanismes, en fait, qui sont hérités de ce positivisme, qui est quand même très très présent dans la science occidentale. Mais disons que les gens vont plutôt se situer un peu entre les deux, en disant bah, « je prends ça de ça, je prends ci de l'autre côté ». Et du coup, chacun va construire son épistémologie pour sa recherche, son cadre épistémologique, si on peut dire ça comme ça, en se servant un peu de différents apports. Mais c'est vrai que moi, je le vois un peu... Là, l'épistémologie située et l'épistémologie positiviste, pour moi, en tout cas, c'est un peu deux extrêmes, quoi.
Et du coup, l'épistémologie, on ne s'en sert que si on est à l'université. Est-ce que nous, par exemple, qui sommes là, est-ce que dans la vie quotidienne, on est traversé par l'épistémologie, j'ai envie de dire?
C'est une très bonne question. Je pense que le mot, il est beaucoup utilisé à l'université, mais qu'en fait, on fait ça tout le temps. On l'utilise tout le temps, c'est-à-dire qu'on se questionne tout le temps sur comment on produit de la connaissance, du savoir, quand on apprend quelque chose de nouveau. C'est des questions en fait que peut-être on se les pose pas forcément consciemment, mais en fait on fait tout le temps de l'épistémologie. C'est-à-dire qu'on va tout le temps essayer de voir comment on valide ce qu'on a appris, comment on valide les connaissances, comment on valide ce que nous dit l'autre, c'est-à-dire quelle grille de lecture on utilise pour valider ce que nous dit l'autre. En fait, on en fait tout le temps, quoi.
Mais comment tu sais tout ça?
Moi je fais une thèse en sciences de l'éducation. Et du coup, comme je travaille sur l'éducation et beaucoup sur comment on produit les savoirs et sur un peu aussi l'histoire des luttes, l'histoire des résistances à la colonisation, des résistances à différents systèmes de domination, je me suis vachement posé la question de qu'est-ce qui fait que tous les savoirs qu'on apprend, ils sont validés par qui qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Pourquoi il y a toute une série de savoirs qu'on n'apprend jamais, par exemple, à l'école ou dans la société en général? Et en fait, du coup, ça m'a vachement questionnée sur... c'est quoi la politique du savoir, en fait? Et voilà, donc j'en parle dans ma thèse, et donc en fait finalement je fais pas mal d'épistémologie dans ma thèse.
Peut-être une dernière question, comment tu nous conseillerais de placer ce mot à une soirée?
Ouais, c'est un peu chaud. Mais est-ce que moi j'ai une petite anecdote d'ailleurs sur ce mot. Quand j'ai écrit mon projet de thèse, donc que je devais présenter pour qu'il soit validé, pour que je puisse postuler à une bourse doctorale. Donc j'avais écrit mon projet thèse où je parlais du coup pas mal de mon intérêt pour l'épistémologie. Et quand je l'ai montré à ma directrice, elle m'a dit enlève épistémologie et remplace tout par méthodologie. Et du coup je me suis dit mais pourquoi, c'est débile, en fait je veux pas parler de spécifique. C'est la méthodologie, c'est un peu une partie de l'épistémologie, mais c'est une petite partie quoi. Je lui ai dit, mais moi je veux pas parler de ça, je veux parler d'épistémologie. Et elle me dit non, enlève-le parce que ça fait trop prétentieux. Et du coup, ils vont croire que tu te la racontes. Donc, mes méthodologies, tu vois. Et donc, je me dis que c'est un mot quand même que quand tu l'utilises, alors que c'est pas si compliqué que ça, en fait, à expliquer ce que c'est, bah, ça fait prétention.
C'est pour crâner, quoi.
Ouais.
Même à l'université.
Même à l'université, avec des, face à des chercheurs.
Ah, c'est dur à placer, même à la fac. Donc, ouais. Peut-être qu'on n'arrivera pas à le placer, quoi.
Bah, ça donne un petit défi de vie, quoi.
Ou peut-être, tu sais, quand on dit non, mais tu sais, dans un débat où quelqu'un veut avoir raison sur un truc, non, mais je sais pas moi.
En début de débat.
Non, mais
j'aimerais qu'on soit d'accord sur l'épistémologie de ce débat.
Oui, je pense que ça marche.
Ça, c'est pas mal.
Je pense que si tu dis non, mais ce qui est sûr, c'est que le jour se lève à telle heure, et ben, tu dis ça dépend des épistémologies qu'on utilise.
Chez le médecin.
Chez le médecin, tu peux le placer quand on dit voilà, vous avez.
Mais sinon, peut-être que si une personne vient défendre, par exemple, des positions un peu racistes ou sexistes ou homophobes ou en tout cas problématiques, on peut lui dire excuse-moi, mais je pense que ton argument relève de l'épistémologie positiviste et je ne suis pas du tout d'accord
avec
cette manière de voir les choses. Ah ouais, là.
Je pense qu'il aura rien à dire derrière.
Bah, c'est sûr. Faut espérer qu'il n'ait pas écouté ce superbe podcast d'explication de l'épistémologie.
Bah, merci Myriam.
Merci.
Merci à vous.
C'est pas du coup. Mais c'est vrai que t'as pas donné le nom tout à l'heure pour bitcher.
Qui c'est qu'on peut insulter?
Ouais, mais tu sais, c'est des noms, ils sont pas hyper connus quoi.
Ouais, mais c'est pas grave.
Genre Auguste Comte, c'est le fondateur du positivisme. Mais. Tout le monde s'en fout d'Auguste Comte. Je sais même pas pourquoi il est connu, à part pour.